y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution.
Ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza?
Bonsoir, vous êtes bien sur Langue de Fronde pour la radio FPP 106.3 FM. Alors on a eu un petit souci d'enregistrement pour notre dernière émission, du coup on réenregistre le début de l'émission du mois de décembre. On était dans les studios avec Clarisse.
Salut.
Olga.
Salut.
Léa.
Salut.
Céline, notre invitée, était là aussi.
Coucou.
Et puis il y avait Mike et re-Céline en régie.
Bonjour et re-bonjour.
Et du coup, le thème de notre émission, c'est la maternité, et plus précisément, en fait, la grossesse et la gestation. Et on voulait se demander dans cette émission comment on pouvait se réapproprier la maternité de façon féministe, comment on pouvait la penser de façon féministe, et voire même la refuser. Donc toutes ces questions, elles sont venues suite à des réflexions qu'on a eues plutôt sur des questions d'auto-santé, et de comment on pouvait se réapproprier des savoirs médicaux qui sont bien gardés par des médecins. Et puis, petit à petit, on en est arrivé au sujet de la grossesse et aussi du droit à la libre disposition de son corps, puisque c'est finalement de ça qu'on va parler dans l'émission.
Et donc c'est bien du droit à la libre disposition de son corps dont on va discuter ici. Et c'était juste pour faire une petite précision sur le thème de maternité qui nous a posé quelques problèmes dans la mesure où il était excluant de personnes qui ne se reconnaissaient pas comme femmes et donc pas non plus comme mères qui étaient impliquées dans maternité. Et on a choisi aussi de ne pas parler de parentalité parce que ça nous semblait plutôt faire signe vers l'éducation des enfants. Et donc là, c'est même si parfois on dira maternité, mais la plupart du temps, ce qu'on pense, c'est plus la gestation, la grossesse. Et comment on est libre ou non de la choisir et comment on est libre ou non de la refuser.
Et peut-être, Olga, tu peux du coup continuer
à préciser le sujet.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas toutes dans la même situation vis-à-vis de la grossesse. Certaines femmes plutôt blanches, hétérosexuelles, bourgeoises ou de classe moyenne ont subi et subissent encore une injonction à la maternité et à la reproduction. Et pour elles, en fait, l'enjeu, c'est plutôt, c'est toujours la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. Mais voilà, c'est pas le cas pour toutes, en fait.
Et par exemple, Elsa Dorlin donne cet exemple que j'aime bien dans son bouquin « Sexe, genre et sexualité ». Donc je cite « Aux États-Unis, par exemple, les femmes africaines-américaines ont historiquement été victimes de stérilisations forcées ou abusives, alors que les femmes blanches subissaient des grossesses à répétition non désirées et étaient acculées aux avortements clandestins. » Donc voilà, en fait, ça pose la question de qui a le droit et même le devoir de se reproduire pour la nation, en fait, de quel corps est exclu de la reproduction, les femmes non blanches, les folles, psychiatrisées, personnes neuroatypiques, etc., les gouines, les femmes célibataires, les personnes trans et bien d'autres qui subissent avortement, stérilisation forcée, ligature des trompes, refus de la PMA, etc. Donc pour certains et certaines, l'enjeu est donc plus celui de l'accès à la maternité. Voilà. Et dans tous les cas, donc voilà, ce que disait Clarisse, c'est que l'enjeu, c'est celui de la libre disposition de son corps qui s'acquiert en luttant notamment contre l'État, qui reste quand même le garant de l'ordre hétéropatriarcal, raciste et classiste, et qui contrôle les ventres et qui décide qui a le droit ou pas de se reproduire et avec qui.
Et ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, Olga, et justement sur ce contrôle des ventres par l'État, il y a un texte de Gaëlle Feterson, c'est un chapitre qui s'appelle « Grossesse et prostitution, les femmes sous la tutelle de l'État ». Donc c'est un chapitre extrait de son texte « Femmes en flagrant délit d'indépendance ». Et dans ce texte, en fait, elle montre comment les mères, les épouses, les putains font l'objet d'un contrôle de l'État, d'une pression sociale et de menaces privées quant à ce qu'elles font de leur corps, aussi bien dans le travail reproductif que dans le travail sexuel. Et je cite, « Les femmes sont divisées en deux groupes, en idéologie comme en pratique, celles qui enfantent et celles qui baisent, les mères et les putains. Les mères ne sont pas censées avoir d'activité sexuelle et les putains ne sont pas censés avoir d'enfants. » Donc en gros, la gestation, c'est oui chez certaines, non chez d'autres. Et puis on voit aussi dans ce texte que le stigmate de putain peut être adressé en fait à n'importe quelle femme qui mènerait une vie hors du cadre sexuel qui lui aurait été assigné. D'ailleurs, elle précise dans ce texte que la première insulte adressée à une adolescente enceinte pourrait être « espèce de pute ». Donc voilà, et en fait, elle termine son texte, que je vous invite vraiment à lire, on mettra la référence sur le blog. Elle termine son texte en disant que celle qui voudrait sortir du cadre, échapper à ce contrôle, celle qui voudrait en gros dire « non, je ne veux pas de cette grossesse, pas maintenant, peut-être jamais », ou bien « oui, selon mes conditions, et non, pas comme ça », en gros, celles qui exigent le contrôle de leur propre vie, sont rendues, je cite encore, coupables de résistance politique, d'ambition individuelle et d'autodéfense contre l'état d'injustice. Je crois que cette émission, c'est un peu aussi dédiée à celles qui résistent et à celles qui disent merde et qui ont envie de faire de leur corps ce qu'elles ont envie de faire, quoi.
Yeah, yeah.
Et du coup, Clarisse, tu veux dire quelque chose ?
Moi, je vais juste faire un petit point, en gros, sur où on en est aujourd'hui, en 2014, sur la question du refus de la grossesse. Et parce que au moment de la loi Veil, le groupe du MLAC, qui est donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, créé peu avant la loi Veil, au début des années 70, se questionne sur est-ce qu'il faut ou non continuer à pratiquer les avortements elles-mêmes, ou plutôt est-ce qu'il faut encore continuer à se réunir, à lutter ensemble. En gros, la question à ce moment-là, c'est est-ce que ça y est, c'est la victoire. 40 ans plus tard, donc, puisque ça va bien faire 40 ans en janvier 2015, la réponse est que non, c'est jamais complètement la victoire sur ces questions-là et sur les questions de féminisme en général, probablement. Et alors, où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, chaque année en France, donc, il y a plus de 220 000 IVG, donc interruptions volontaires de grossesse, qui sont pratiquées. Plus d'une femme sur trois a recours à l'IVG dans sa vie, donc de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Et l'avortement légal est jusqu'à 12 semaines ou 14 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines après l'arrêt des règles, pour donc le droit à avorter. D'un autre côté, donc, depuis 10 ans, 130 centres d'interruption volontaire de grossesse ont fermé en France. Et il y a de moins en moins de choix des méthodes et des techniques et même des lieux pour avorter. Et on constate aussi donc que la clause de conscience, donc la dite clause de conscience, existe encore. C'est-à-dire qu'il y a un flottement autour de est-ce que les médecins ont encore la possibilité de dire non à une personne qui vient avorter. Et on constate aussi que dans les cours de médecine, tout simplement, très peu de cours concernent l'IVG. Donc c'est-à-dire que les étudiants et étudiantes en médecine, en fait, n'ont pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je vais reprendre rapidement une enquête faite par le planning familial du 93, donc de Seine-Saint-Denis, qui a posé en mars 2014 tout un tas de coups de téléphone à des hôpitaux et des cliniques de Seine-Saint-Denis, donc à 8 cliniques et 6 hôpitaux pratiquant l'IVG dans le 93. Et les coups de téléphone étaient à la fois, pour la moitié, en tant que planning familial du 93, pour obtenir des infos officielles, et pour d'autres coups de fil, c'était en tant que femme ou meuf qui souhaitait avorter. Les résultats, c'est que les standards téléphoniques sont souvent surchargés et parfois payants, donc pour ce qui est plutôt du privé. Ça peut aller jusqu'à 5 euros les 10 minutes. Donc ça t'appelle, bonjour, ça t'appelle, vous sera facturé 0,15 centimes la minute et tout ça. Et ensuite, il n'y a jamais de réponse. Et sur 92 appels, donc 39% des appels sont sans réponse. Donc au bout de deux appels, en gros, elle laissait tomber. Et donc ça veut dire deux appels sans réponse. Et sur les réponses, seulement 21% des réponses débouchent sur la certitude que l'IVG sera faite. Pour le reste, donc, on observe un délai de 2 à 4 semaines dans le privé et de 2 à 5 semaines dans le public pour obtenir un rendez-vous au sujet de l'IVG. Les mineurs, souvent, on leur demande de venir accompagner alors qu'elles sont censées donc avoir droit à ne pas être accompagnées par une personne majeure. Le remboursement à 100% qui est censé être passé dans la loi en 2013, en fait, n'existe plus trop. Enfin, n'existe plus trop, là, je fais un gros raccourci. En fait, il existe, mais c'est selon le nombre de rendez-vous qui sont demandés. Il y en a certains qui sont remboursés à 100%, effectivement, mais les autres, non. Et il me reste plus de temps, c'est ça.
Vas-y, vite, conclue.
Et je voulais juste, du coup, dire que, en gros, a priori, que l'avortement, d'une certaine façon, faisait partie de la contraception et qu'il pouvait pas, que l'avortement, en gros, va de pair avec une contraception. Et que ça sera, à mon avis, jamais gagné, qu'il faudra, vu la situation, il y aura toujours des échecs de contraception et il faudra toujours continuer à veiller aux conditions de tout ça. Et juste pour un petit point sur la stérilisation, qui est du coup aussi une méthode de contraception, il y a 2,3% des femmes en France du coup, qui ont demandé et qui sont stérilisées. Et cette stérilisation définitive, en fait, on constate qu'elle pose énormément de problèmes, vu le fond de culture nataliste qui est en France, et le schéma contraceptif hyper limité à ce sujet.
Chez les hommes, quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme? Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non.
Et on vient d'écouter Anne Sylvestre, la chanson « Non, tu n'as pas de nom » qui a été écrite et composée au début des années 70, donc au moment des luttes sur les questions de l'avortement dont on est en train de parler juste avant. Je rappelle qu'on a un blog et aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire, donc c'est languedefronde@riseup.net. Et le blog où on met toutes nos émissions, c'est languedefronde.net.
www.noblog.org. Maintenant, je voulais vous parler d'une brochure qui nous a pas mal questionnés et qu'on trouve très intéressante, de Laetitia Négrier et de Béatrice Casal, qui s'appelle « La grossesse et l'accouchement, histoire d'une maladie pas comme les autres ». Dans cette brochure, les auteurs s'intéressent aux conditions de grossesse et d'accouchement des femmes aujourd'hui. Elles retracent de façon historique le processus de médicalisation des naissances. Et elles accentuent vraiment sur le fait que, en fait, les choix et sur nos corps, notre liberté à se réapproprier nos corps, se limitent pas à décider de poursuivre ou d'interrompre une grossesse. Et du coup, elles mettent l'accent sur le fait qu'il faut intégrer dans les luttes féministes aussi les questions de grossesse, d'accouchement. Et donc voilà, ça pose pas mal de questions, notamment elles expliquent que la grossesse et l'accouchement peuvent être des sources et des expériences d'empowerment. Donc on en discutera tout à l'heure avec notre invitée Céline. Et peut-être je voulais juste vous lire un passage de la brochure avant de commencer la discussion. En gros, elles disent « Les luttes pour l'accès à la contraception et à l'IVG donnent l'illusion aux femmes qu'elles contrôlent entièrement leur fécondité. En réalité, il semble que la maîtrise de la fécondité se limite encore à la décision de poursuivre ou d'interrompre une grossesse. » On va vraiment plus discuter maintenant sur comment prendre en charge de façon féministe la grossesse et l'accouchement, comment penser ça dans un cadre féministe et de liberté de choix. Voilà.
Et peut-être tu peux commencer, Céline, par te présenter, nous dire un peu où tu travailles et aussi sur quoi tu travailles, un peu ton double statut.
Ok, donc je m'appelle Céline, je suis sage-femme, ça fait 3 ans maintenant, et je fais un master de sociologie en même temps à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, c'est un master en genre, politique, sexualité. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler après mes études de sage-femme à Rouen dans un CHU. Donc CHU, c'est Centre Hospitalo-Universitaire. Donc c'est là où il y avait pas mal de pathologies, de maladies de la grossesse en fait. C'est là où il y a tout ça tout ce qu'il y a dans la région comme maladie de la grossesse vient dans ce CHU. Et après, donc il y avait beaucoup d'accouchements sur le dos, beaucoup de péridurales. Donc c'était des accouchements assez standardisés quand les femmes allaient bien. Et après, aujourd'hui, je suis dans un hôpital un peu plus alternatif où si les femmes ont envie d'accoucher sur le côté, dans l'eau, à quatre pattes, avec ou sans péridurale, eh bien, elles le peuvent. Voilà. Et mon sujet de recherche, c'est sur les femmes qui accouchent à domicile et sur les sages-femmes qui les accompagnent. Voilà, la question, ma problématique, c'est pourquoi finalement ces femmes elles accouchent à domicile alors que dans l'hôpital, il y a toutes les techniques, y compris la péridurale. Parce que maintenant, il faut savoir que les femmes accouchent pour 81,4% d'entre elles avec une péridurale. Ça, c'est les chiffres 2010 de l'enquête Périnat.
Et du coup, peut-être pour expliquer ce chiffre-là que tu viens de citer, est-ce que tu peux nous contextualiser un peu le fait qu'il y ait aujourd'hui un recours à la péridurale et du coup, comment ça se pose dans un cadre plus large de médicalisation de la naissance?
Ouais.
Peut-être juste dire ce que c'est la médicalisation, enfin qu'est-ce qu'on entend par là.
D'accord. Donc la médicalisation. Bon, alors si on prend une définition sociologique, qu'est-ce que c'est que la médicalisation? C'est définir un comportement que l'on ramène uniquement à un problème médical ou à une maladie, et le mandat donné à la profession médicale pour y apporter quel type de traitement. Ça, je pense que les personnes qui sont dans un parcours trans doivent bien comprendre cette définition. Ça, c'est Conrad qui l'a défini en 1980. Il dit aussi, définir un problème en termes médicaux, c'est d'abord employer un langage médical pour le décrire, c'est ensuite adopter une structure médicale pour le comprendre, et c'est enfin mobiliser une intervention médicale pour le traiter. Alors, il y a une controverse autour de la médicalisation. Donc, elle est sur plusieurs niveaux, un niveau international. Par exemple, l'OMS dès 94, dans ses recommandations, dit qu'il faudrait entre 5 et 15% de césariennes. En dessous de 5%, il n'y en a pas assez. Il peut y avoir un risque pour le bébé. Au-dessus de 15%, finalement, il y a trop de césariennes. Ça n'a aucune incidence sur la santé du bébé. Et ça, c'est du coup, il y a un taux d'intervention trop important sur le corps des femmes. Du coup, c'est iatrogène. Ouais, c'est-à-dire qu'on crée plus de pathologies on crée trop de pathologies avec au-dessus de 15%. Voilà, en France, on est à 20% à peu près. Au niveau national, en 2003, il y a le collectif interassociatif autour de la naissance qui se crée et qui réclame plus de sages-femmes dans les hôpitaux, l'ouverture des maisons de naissance, l'accouchement à domicile. Et ils critiquent des pratiques médicales non fondées sur des preuves scientifiques et qui ont directement une influence sur les femmes. Par exemple, l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est le fait de couper le sexe d'une femme quand elle donne naissance à son bébé. Et donc, cette pratique, elle s'est instaurée dans les années 50, quand les accouchements sont passés du domicile à l'hôpital. Et c'est ensuite que les femmes et les sages-femmes, et qu'il y a eu des études scientifiques dessus, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne prévenait pas des descentes d'organes et ça ne prévenait pas des déchirures graves. Autrement dit, c'était une mutilation faite au moment de l'accouchement. Il faut savoir que, par exemple, en 1999, en France, il y avait 71,3% des femmes qui avaient un premier bébé qui avaient une épisiotomie et 36,2% des multipares, donc des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui avaient une épisiotomie. Suite à des mouvements d'usagères, une référence qui peut être utile pour les auditrices, c'est l'association francophone pour l'accouchement respecté, AFAR. Suite à des mouvements d'usagères, aussi le CIAN, le Collège national des gynécologues obstétriciens français a sorti des recommandations et du coup maintenant les taux sont un peu moins importants. En 2010, il y a 44,4% des femmes qui ont un premier bébé qui ont une épisiotomie ou 14,3% des femmes qui ont déjà eu un enfant qui ont une épisiotomie. Donc ça reste quand même élevé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Bah, ouais, moi, je voulais aussi te poser une question. Enfin, dans ce que tu nous as dit en préparant l'émission, il y a des femmes qui demandent explicitement à ne pas avoir d'épisiotomie et qui en ont quand même une.
Oui, je me souviens d'un témoignage d'une femme qui dit « Non, je ne veux pas d'épisiotomie. » Et il y a le gynéco ou la sage-femme qui répond « Non, mais madame, ça ne vous regarde pas, par exemple. » Ou alors, j'étais en soirée samedi soir et j'ai encore une fille qui m'a dit... tu sais, moi Céline, j'aurai plus d'enfants. Hein. À au moment de son accouchement, elle a hurlé dans la salle, non, j'en veux pas, et on lui a fait quand même. Il y a le CIAN, justement, qui a fait un questionnaire auprès de 9000 femmes, et 85% des femmes disaient ne pas avoir été informées de ce geste-là. Donc, voilà. Désolée, je comprends que ça fasse un peu peur.
Moi, ça
m'a. Mais le fait, c'est hyper important du coup de parler de la médicalisation de la naissance.
Mmh. Mais par contre, il y avait un support écrit dans le livret de naissance, tu disais.
Ah oui.
Là, ça.
D'accord. Donc, les usagères, par exemple, ont mis en place, et c'est dans les recommandations de 2007, ce qu'on appelle un projet de naissance. C'est-à-dire que vous pouvez dire explicitement, écrire ce que vous voulez. Par exemple, il y avait des pratiques hospitalières courantes qui étaient de séparer le bébé de la maman à la naissance pour faire la pesée, pour faire tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'activités dans les hôpitaux. Et donc ça, vous pouvez mettre sur le projet de naissance que vous ne voulez pas être séparé du bébé à la naissance.
Et on peut mettre par exemple aussi pas d'épisiotomie.
Voilà, on peut mettre ça aussi dans le projet de naissance. Ou alors, si vous accouchez dans une autre position que la position gynéco, il y a moins de risques de déchirure, par exemple sur les accouchements sur le côté ou les accouchements à quatre pattes. Et vous pouvez mettre vous voulez accoucher, y compris dans une autre position le jour de l'accouchement. Vous pouvez aussi, bien sûr, en parler avec la sage-femme qui est là le jour de l'accouchement. Bon, un truc important, c'est qu'il y a plusieurs manières de voir la naissance. Il y a une vision un peu risquée de la naissance. Là, c'est la conception dominante en France. Je vais citer les travaux de Madeleine Akrisch en 1996, qui a fait une étude entre la France et les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'accouchements à domicile. À l'époque, en 1996, il y avait 15% de péridurale. En France, il y en avait 70%. Et elle part de quelque chose de très simple, c'est qu'elle dit, voilà, il y a plein de techniques différentes. Enfin, il y a beaucoup de techniques en France et pas beaucoup aux Pays-Bas. Pourtant, il y a les mêmes chiffres en termes de mortalité et morbidité périnatale. Du coup, elle isole qu'en France, il y a une conception risquée de la naissance, c'est-à-dire qu'il y a un adage qu'on connaît bien, c'est un accouchement ne peut être dit normal que 2 heures après la naissance. Et donc ça légitime une surveillance médicale et le risque a été pris en compte et pris en charge grâce à la technique. En fait, on a technicisé tous les accouchements. Aux Pays-Bas, on suppose que la femme est a priori capable d'accoucher et on a une liste claire des pathologies. La première personne qu'elle va voir, c'est une sage-femme. Si la sage-femme voit qu'il y a un problème, elle l'adresse au gynécologue. Et donc, elle dit, les conceptions en termes de naissance, ça influence les lieux d'accouchement, l'hôpital, la maison de naissance. Maison de naissance, c'est un endroit où il y a peu de techniques, c'est comme à la maison, sauf que c'est en relation avec un hôpital, c'est dans un rayon de 3 à 5 km à peu près. Et en fait, les femmes restent 2 heures après dans cette maison de naissance et repartent chez elles après. C'est la même sage-femme qui suit la grossesse et l'accouchement et après. Et donc, si vous avez une conception plutôt risquée ou physiologique de la naissance, ça va influencer donc les lieux d'accouchement, la division du travail entre médecin et sage-femme, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire si confiance que ça à la sage-femme. Donc, on va plutôt adresser les femmes aux médecins. Mmh. Et ça influence, bien sûr, du coup, le taux d'intervention sur le corps des femmes. Voilà. En France, du coup, il y a quand même plus de césariennes qu'aux Pays-Bas, par exemple. On est à 20%. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, ils sont à 15%. Voilà.
Justement, je voulais juste faire une parenthèse dans la brochure dont je parlais tout à l'heure. Les auteurs parlent de T2A, la tarification à l'activité, comme quoi chaque geste obstétrical, trop dur à dire ce mot, est rémunéré à l'acte. Donc en fait, plus on intervient sur le corps de la femme, plus
les médecins sont payés.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais là, ça se voit surtout dans les cliniques privées. Donc l'enquête de 2010 périnatale, elle montre qu'il y a plus d'interventions dans les cliniques privées, par exemple sur les femmes qui vont bien. Mmh. Ouais, donc oui, quand on a une réflexion féministe, on voit bien qu'après, il y a des enjeux capitalistes qui s'insèrent là-dedans.
Ouais. Puis autre chose, une autre parenthèse par rapport au consentement dont on parlait un peu tout à l'heure, le fait de juste zapper la vie des personnes avant d'intervenir. En fait, ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu juste hier. C'est dans le code de la santé publique, en fait, il y a un article en France qui dit que le consentement de la personne examinée doit être recherché dans tous les cas. Donc il n'est pas forcément recherché, mais surtout, en fait, il n'est pas écrit qu'il doit être obtenu, contrairement à la loi au Québec où le code de déontologie stipule bien que le consentement doit être obtenu. Et enfin, j'ai juste halluciné quand j'ai lu ça. Et voilà, c'était une petite parenthèse quoi, sur ces questions. Enfin, moi, ça me rend complètement folle. Mais du coup, tout n'est pas perdu.
Quelles sont les alternatives?
Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?
Dis-nous ce qu'on peut faire, parce que...
ouais, alors du coup, ce que vous pouvez faire, c'est... déjà, si vous êtes plus rassuré d'accoucher à l'hôpital, eh ben, essayez de bien choisir votre hôpital. Un hôpital qui soit ouvert aux pratiques alternatives. Donc, par exemple, à Paris, je pense au Bluet, je pense au Lila, je pense y compris au Diaconèse. Sachant que pour travailler dans une de ces maternités alternatives, on a tellement d'activités parce qu'on doit être rentable que du coup, les sages-femmes, elles ont très peu de temps pour les femmes. Donc voilà, on est dans une période difficile dans nos conditions de travail et ça se ressent sur l'accompagnement qu'on peut donner aux femmes. Alors, historiquement, par exemple, les Bluets, c'est un hôpital où on pouvait accoucher sans péridurale parce qu'on avait tout simplement, il y avait des sages-femmes qui étaient formées à ça. C'est-à-dire, elles s'y connaissent à fond en respiration, elles s'y connaissent à fond en massage, et puis surtout, ça les sécurise, ça les dérange pas de faire des accouchements sur le côté, à quatre pattes, elles suivent les femmes, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris grâce à mon master de sociaux, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner une femme si elle veut accoucher à quatre pattes, sur le côté, j'ai plus peur en fait. Parce qu'avant, j'étais encore dans cette vision risquée de la naissance où finalement j'avais pas confiance dans le corps d'une femme. Je pensais que c'était moi qui allais réussir l'accouchement, alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais que c'est la femme qui réussit son accouchement. Et moi, en fait, je suis là pour l'aider à trouver le chemin pour y arriver, quoi. Donc. Aujourd'hui, si une femme veut accoucher à quatre pattes, moi je l'aide. Si elle veut accoucher sur le côté avec son pied sur mon épaule, hurler comme une folle, je suis là pour l'aider. Voilà. Et Voilà, donc vous pouvez aussi faire un projet de naissance, comme ça vous parlez avec, l'équipe médicale, sachant qu'il y a des hôpitaux où les projets de naissance sont très peu, sont mal acceptés, ils prennent ça comme une remise en cause de leur savoir. Il faut vraiment prendre ça comme un outil de discussion, quoi. Après, donc, vous pouvez, il y a des bouquins, je vous conseille un bouquin qui s'appelle « La naissance naturelle ». La pochette est moche, le titre peut laisser à désirer, mais c'est toute l'expérience d'une sage-femme très connue aux États-Unis dans les mouvements de critique de la médicalisation qui en est l'auteur. Je vous conseille aussi des films. Par exemple, un film qui traite de l'accouchement à domicile qui s'appelle « Entre leurs mains ». Un autre film qui s'appelle « The Business of Being Born », donc là, qui va très loin dans l'analyse capitaliste de pourquoi c'est intéressant de faire des interventions sur le corps des femmes. Et puis, un enjeu de lutte, c'est quand même changer les pratiques dans les hôpitaux, c'est-à-dire avoir des pratiques basées sur les preuves scientifiques. Donc, par exemple, la lutte contre l'épisiotomie, sachant qu'il y a un hôpital à Besançon, un CHU, qui fait que 2% d'épisiotomie. Là, je vous ai cité les sites de 2010. Hein, pour un premier bébé, 44,4% d'épisiotomie. Pour celles qui ont déjà eu des enfants, 14%. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et puis, se battre pour les maisons de naissance et que les femmes accouchent à domicile. Et pourquoi l'accouchement à domicile, par exemple ? Parce que l'accouchement à domicile, c'est l'endroit par excellence où on pense que la femme est capable d'accoucher toute seule, c'est-à-dire sans technique, sans aide. Voilà. Et donc, voilà. Ouais, vas-y.
Non, mais du coup, dans un cadre bienveillant, quoi. Enfin,
oui.
Ouais. Fait de se sentir en confiance et tout ça, c'est... Enfin, je sais pas, ça me semble un peu essentiel aussi.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Et... Sinon, moi, j'avais une question aussi. On avait parlé, enfin, vaguement évoqué, la question de l'accouchement orgasmique.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
C'est quand même rigolo.
Oui, alors, je parlais tout à l'heure de Iname Gaskin. Donc, c'est une des sages-femmes qui a eu un prix alternatif pour sa vision de l'accouchement. Cette sage-femme, elle dit, voilà, parmi mes patientes, sur 150, j'en ai 80 qui ont eu un accouchement orgasmique. Et elle fait toute une critique de la médicalisation et pour elle c'est super important, donc il y a une super relation avec la sage-femme
et non mais aussi par rapport je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc hormonal qui se joue, quoi.
Ah oui, t'as raison. Ouais. En fait, pendant l'accouchement, on sécrète de l'ocytocine. C'est aussi une hormone qu'on sécrète pendant le rapport sexuel ou quand on a du plaisir. Et l'ocytocine, ça nous permet... ça a une action aussi au niveau du cerveau, neuromédiatrice, on dit, et qui nous fait être un peu dans un état particulier. Et donc, pour qu'elle soit sécrétée, il faut des conditions particulières. Il ne faut pas que vous soyez stressé, en fait, par exemple, si on met plein de lumière, qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans une salle, qu'il y a des bruits d'instruments, des choses comme ça, tout ça, ça va vous stresser, ça va vous l'empêcher de la sécréter. Et donc, il faut vous mettre dans des bonnes conditions, en fait. Il faut être avec une personne de confiance, une sage-femme de confiance. Si votre conjoint ou votre conjointe est là et qu'elle vous fait des massages, Iname Gaskin, elle parle même de bisous, de s'embrasser... Voilà, donc créer des conditions déjà où vous vous sentez en confiance pour maximiser l'effet de cette ocytocine. Et aussi des endorphines qui, entre les contractions, vont vous faire partir dans un autre monde. Voilà, donc le problème avec l'accouchement orgasmique, c'est que ça correspond vraiment à une vision dominante de la maternité. La maternité comme chose formidable, qui va vous épanouir. Mais par contre, c'est une vision extrêmement alternative de l'accouchement. Puisqu'il faut savoir, à chaque fois par exemple, qu'on parle d'accouchement, les femmes ont toujours peur. Et elles ont toujours peur que ça soit hyper douloureux. Et du coup, le premier truc qu'elles se disent, c'est bah, « tiens, j'ai la péridurale et c'est pour ça que ça va m'aider ». Quoi. Donc moi, mon taf, c'est de, et c'est déjà tard pendant la grossesse, c'est de leur dire, en fait, vous avez les capacités pour accoucher. Je dirais pas, les femmes savent accoucher, puisque il y a tout un travail à faire pour être enceinte, il faut comprendre le langage médical, etc. Mais je dirais, parce que je trouve ça très subversif, les femmes sont capables d'accoucher. Parce que quand même, quand on suppose qu'une femme qu'il y a un risque de mort pour la mère et son bébé, ça veut quand même dire qu'on suppose, lors de l'accouchement et de la grossesse, ça veut quand même dire qu'on suppose qu'un corps féminin déficient. Et aujourd'hui, non, je pense sincèrement qu'une femme est capable d'accoucher et elle peut même y trouver une source de confiance pour le reste de sa vie. C'est pas obligé, mais elle peut. Et mon taf, par exemple, c'est de l'aider à trouver ça, qu'elle puisse se mettre dans une position dont elle a envie, etc. Voilà. Et qu'elle puisse, du coup, avoir pas de subir de violence et en plus kiffer ce moment.
Merci Céline pour tout ça.
Ouais, merci beaucoup.
C'est hyper intéressant et puis on va mettre du coup toutes les références qui ont été citées pendant cette discussion sur notre blog et puis voilà quoi, il faut parler de ces choses-là parce que franchement en faisant cette émission on a appris plein de trucs et ça libère pas mal la discussion là-dessus. Donc c'était chouette et je sais pas, tu veux rajouter quelque chose ? Bon alors, on enchaîne tout de suite avec un petit bêtisier compil medley, je sais pas trop comment l'appeler, de chansons sur les mamans.
En cette fin d'année, nous avons tous besoin de rire et d'oublier nos soucis. Mais je crois que c'est aussi le moment où chacun d'entre nous évoque avec beaucoup de nostalgie son enfance et pense avec beaucoup de tendresse à ses parents. Toi, maman, chaque soir jusqu'à 7 ou 8 ans, je te voyais près de mon lit en m'endormant. Le matin, je savais avant d'ouvrir les yeux que tu étais à la même place et que tu rêvais. En t'attendant, j'ai tricoté ta chambre de mes rêves, bleuti ton prénom contre mes lèvres. En t'attendant, j'ai joué devant la glace à être une femme, réécrit mon histoire pour taire tes larmes.
Alors je suis la maman, mais pourquoi tu pleures tant? Si c'est ça, je ne joue plus, joue plus, joue plus, joue plus. Maman, elle est pas si bien que ça, c'est pas Thérèse d'Avila, c'est loin d'être la Sainte Vierge. Ça ne l'amuse vraiment pas, vos précautions et vos gamberges, vos silences au bruit de ses pas. Ce qu'elle veut, c'est pas des cierges, votre respect lui reste là.
En t'attendant, j'ai acheté des robes couleur de bonbons. Que tu me dévores, que je sois ta maison, ton cheval.
J'fais que ça pousser, j'espère que j't'avais vendu contre le mur. J'ai changé d'avis, j'veux la piquer.
Le bonheur d'être maman,
qu'est-ce que j'fais?
Ce petit bout de chou en herbe qui cogne juste pour nous dire à coups de pied acerbe, c'est l'heure, je dois sortir.
Je suis la mère, tu es l'enfant, aucun lien n'est plus sage. Tu es le sable, moi l'océan, tu es mon seul rivage. Je te recouvre chaque instant de mes vagues de passion, comme une mer de sentiments et d'affection.
Maman, elle va vous étonner, c'est Madeleine et Salomé, c'est Pompadour et Lavalière, mais c'est Gabrielle d'Estrée, c'est la dernière des dernières, c'est tout sauf ce que vous croyez, c'est une femme qui naguère, c'est tout simplement oublier. C'est Madeleine et Salomé, maman elle va vous étonner, c'est pas Thérèse Davila, maman, mais c'est pas du tout ça.
Alors Céline, tu voulais rajouter un petit truc?
Oui, j'ai oublié de dire que en fait, les gens ne savent pas toujours ce que c'est qu'une sage-femme. Une sage-femme s'occupe de tout ce qui va bien pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Elle peut suivre votre grossesse, faire la préparation à la naissance, être là pendant votre accouchement et après. Et je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes libérales pendant votre grossesse, qui font aussi le suivi gynéco. Des femmes. Donc, même si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aller voir une sage-femme. Sachant que j'en profite pour dire qu'il y a une liste blanche de professionnels gynéco qui s'appelle Gynenco. Vous pouvez taper ça sur Internet, liste blanche Gynenco. N'hésitez pas, faites pour par des gouines, des meufs, etc. Et elle est très bien. Voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on avait oublié d'en parler, c'est super cool. Du coup, comme on l'a vu dans l'introduction, on n'a pas toutes le même accès à la grossesse et à la reproduction. Il y a des corps écartés de la maternité, des corps de paria, de métèque, des corps à qui l'État dit très clairement « tu ne fais pas partie de la nation ». D'un certain côté, moi ça pourrait me plaire parce que ça ne me fait pas franchement rêver cette idée de faire partie de ce grand corps de citoyens-citoyennes, ni l'idée de fabriquer des rejetons pour l'État. Mais en fait, ça me fout plutôt en colère, parce qu'encore une fois, l'État vient foutre son nez dans ma culotte, et ses restrictions et accès différentiels aux techniques de reproduction ne sont que les effets de politiques hétérosexistes. Et même une députée ELV, Véronique Massonneau, le reconnaît en pleine assemblée, donc c'est pour dire, je cite, « Mes chers collègues, ne soyons pas dupes, les propositions de légalisation ou d'encadrement de la GPA formulées, y compris à droite, avant la loi sur le mariage pour tous, avaient un point commun. Se fondant sur les règles alors en vigueur en matière de mariage et d'adoption, elles concernaient exclusivement les couples hétérosexuels. C'est parce que le mariage pour tous a reconnu les familles homoparentales que la question est devenue scandaleuse pour une frange de l'opinion à laquelle vous emboîtez le pas. » Fin de citation. Et dans son article « Procréation politiquement assistée », Béatrice Preciado dénonce l'idéologie hétérosexiste que mobilisent les arguments qui font de l'union d'un homme et d'une femme la condition de possibilité de la reproduction. Donc Preciado rappelle que la reproduction sexuelle n'existe pas l'union ni sexuelle ni politique d'un homme et d'une femme, mais qu'elle est un processus de recombinaison du matériel génétique de deux cellules haploïdes. Et Preciado écrit « Historiquement, différentes formes de pouvoir ont cherché à contrôler les processus reproductifs. Jusqu'au XXe siècle, dès lors qu'il n'était pas possible d'intervenir au niveau moléculaire, la domination plus forte s'exerçait sur le corps féminin, utérus potentiellement gestant. L'hétérosexualité était utilisée comme technologie sociale de reproduction politiquement assistée. Le mariage était l'institution patriarcale nécessaire pour un monde sans pilule contraceptive ni test de paternité. N'importe quel produit d'un utérus était considéré comme propriété du pater familias. Faisant partie d'un projet biopolitique au sein duquel la population était l'objet de calculs économiques, l'agencement hétérosexuel devint un dispositif de reproduction nationale. Preciado continue plus loin. Homosexuels, transsexuels et corps considérés comme handicapés, nous avons été politiquement stérilisés ou bien nous avons été forcés de nous reproduire avec des techniques hétérosexuelles. La bataille actuelle pour l'extension de la PMA aux corps non hétérosexuels est une guerre politique et économique pour la dépathologisation de nos formes de vie et pour le contrôle de nos matériaux reproductifs. Fin de citation. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que les nouvelles, ou pas si nouvelles d'ailleurs, technologies de reproduction offrent à mon sens des possibilités infinies de réinventer nos corps, nos imaginaires et même le monde, pourquoi pas. Et elles pourraient déshétérosexualiser nos imaginaires si seulement elles n'étaient pas quasi exclusivement aux mains de l'État, des groupes pharmaceutiques et des médecins. Et du coup... voilà, moi je rêve de me faire implanter dans l'utérus les ovules fécondés de là ou d'une des personnes avec qui j'aurais décidé d'être coparente, sans passer par la case psy ni par celle du comité d'éthique. J'ai envie d'imaginer des couples de gouines portant respectivement le bébé de l'autre, une GPA en famille si vous voulez, dans une famille qui n'a plus rien à voir avec la famille hétérosexuelle. Je me délecte de termes biologiques comme chimérisme fœto-maternel, c'est-à-dire le fait que les cellules du fœtus restent dans le corps gestant des dizaines d'années après la naissance. J'ai envie de jouer avec, de faire cohabiter mes cellules avec plein d'autres cellules, de faire à mon matériel reproductif des loopings dont vous n'avez même pas idée. J'ai aussi envie de pouvoir avorter tranquillou entre copines, si ce n'est à la maison, on pourrait au moins se dire « Rendez-vous à 13h à l'hosto, Sarah et Marion avortent en deux-deux, et on a juste le temps de choper la séance de 14h30 pour aller voir la dernière grosse daube américaine ». C'est parce qu'on avait tout un peu donc, ces envies-là qu'on a fait des petits jeux d'écriture. Et voilà, on va maintenant vous lire un peu les bafouillages de ces jeux d'écriture et on va commencer par un cadavre exquis.
Bon bah voilà, ça y est, je ne vois plus mes pieds. Et si je prends une aiguille pour percer les mythes autour de l'accouchement, comme soi-disant moment magico-glamour de ta vie entre tes cuisses. Ça sort un truc un peu dégueu. Ça pègue comme un machin qui te collera toute ta vie. Bonsoir, la responsabilité. Et en même temps, je peux créer des êtres mini-féministes, anti-racistes, qui se multiplient à l'infini, tout autour de toi. Et jouir pendant mon accouchement, mettre de la cyprine plein mes murs. Les blagues du siècle. On pourrait pas se mettre le bébé dans le dos, ce serait quand même plus cool si mon mec pouvait être enceinte à ma place, parce que perso, ça me panique là. J'appelle mes copines, on part à Marseille à la plage avec mon nouveau corps gonflé d'une énergie nouvelle. L'utérus, qui prend 20 fois mon poids. Une tête sort des cuisses, on dirait une baleine bleue, un hippopotame, une île, une maracas, un dromadaire à la verticale, la fatigue qui te fait tomber au sol, plouf, jusqu'où ?
Voilà, donc ça c'était le petit cadavre exquis. Et on va maintenant vous lire les quatre logorali que nous avons fait. Alors en gros, le principe c'est que chacune disait un mot, genre toutes les minutes. Un mot qui résonnait pour nous avec la thématique de l'émission. Et alors, à partir de là, on est un peu parti dans un truc d'écriture automatique endiablée. Donc juste pour vous dire, les mots c'était cabane, science-fiction, passager, crevette, nœud, chimère, parasite et pied de biche. Donc voilà, on va vous lire nos bafouilles encore une fois. Et vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer les vôtres sur le blog de Langue de Fronde et continuez voilà, à lutter et réinventer vos corps, enceints ou pas, en dehors des schèmes hétéropatriarcaux. Donc, lecture. Cabane. Se construire une cabane. Ma première cabane. Être une cabane ? Comment tu te sens quand t'es prise pour une cabane ? Genre, il y a un petit alien qui est venu se nicher là. C'est de la science-fiction ce truc. Incroyable. Ce passager avec qui je partage cet espace, avec qui je cohabite, je me co-constitue. Mon compagnon de route avec qui je me co-façonne. Ni fusion, ni séparation. Jusqu'où vont nos échanges ? Je garderai longtemps en moi des cellules de cette petite crevette. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Des antennes de crevettes roses qui me chatouillent de l'intérieur. On apprend ensemble à se rencontrer. On fait des nœuds, ça s'en mêle, parfois ça tient. Faut beaucoup de travail pour fabriquer un foie, des intestins. J'espère que tous ces petits nœuds tiendront. Et si on s'entend pas bien ? Je suis une chimère, un être constitué de plusieurs êtres, de plusieurs espèces, avec ce petit tas de cellules en moi, avec toutes nos bactéries qui dansent autour de nous. On est bien plus que deux dans cette affaire. Comment dissocier moi de ce qui n'est pas moi ? Est-ce que tu t'entends bien avec mes bactéries intestinales ? Avec tous ces parasites dont tu fais aussi partie ? Vous êtes les petits hôtes de mon corps. Tu n'es pas si différent du virus de la grippe qui vient me faire chier chaque hiver. Un peu plus encombrant peut-être. Et tu vas rester plus longtemps, si je veux. Et je t'aime bien, comme toutes ces petites bactéries. On apprend à se connaître.
Fais ta cabane, de briques et de broc. Dans ton bide, un jour, ça fera boum, comme une bombe. Il y en a un peu partout, des petits bouts, des gros bouts, marabouts. Un animal gigote dans la popote. C'est passager ou non, il y a autre chose. Un objet, un animal, une passagère t'accompagne. Un genre de crevette recroquevillée qu'on hésite à croquer, à dégueuler, à embrasser, à décarcasser ta carcasse. Là, ça fait comme des nœuds, qui se font et se défont. Et quand tu les défais, c'est d'autres qui t'en refont. C'est tout noué, de la tête aux pieds. Parfois ça fait mal, d'autres fois ça dépote. T'imagines un canard qui s'envole par devant ou pas, en croissant comme une grenouille endormie. En gros, un gros parasite qui crépite et qui rit en partant. Là, t'as envie de prendre un pied de biche pour le retirer. Pas de ciseaux, juste un petit pied de biche pour prendre ton pied. Salut ma biche.
Comme au fond d'une forêt, au chaud entre quatre planches, on n'a plus envie de sortir de là. Il doit faire froid dehors. Et si je restais là quelques mois de plus, qu'est-ce qu'elle dirait l'autre ? Je l'entends qui me parle de l'autre côté, mais elle comprend pas qu'on cause pas la même langue. Tout ça, c'est de la science-fiction. Comment je me suis retrouvée ici ? Passagère clandestine dans un corps tout bizarre qui n'est pas le mien. Bon, en fait, l'histoire, c'est que je me suis retrouvée transportée ici, aspirée de force de ma planète, comme une crevette dans l'épuisette. Et j'ai atterri là-dedans. Et quand il faudra sortir, je retrouverai les copines et les copains dans un grand bâtiment. On coupera les nœuds de nous toutes et on sera jeté dans le grand bain des humanoïdes à qui on devra ressembler. Peut-être vous y croyez pas, convient d'ailleurs, qu'un jour nous choisirons de garder notre langue et notre peau. Parasitez vos existences, envoyez de petits signaux. Les crevettes se réveillent et on commencera par de petits coups de pied. Dans le voyage entre ma planète et la vôtre, j'ai vu des choses étranges, des biches qui volent et des poissons d'argent. Des choses que je n'ai pas envie d'oublier et que je dessine sur les parois de ce ventre pendant des mois.
Je ne suis pas une cabane. Mon ventre n'hébergera rien où je scierai les branches d'Alien, le huitième passager. Explosion. Ni de passage, ni passager, ne pas passer par moi. Passe ton chemin, je passe mon tour. Rose nue, aveugle et sourd, crevette. Si je le mets dans l'eau bouillante ou que je le mets à sécher, sera-t-il bon à déguster ? Apéritif fœtal. Tourte au cœur d'embryon. Chimère, fantasme. Monstre, fantôme, mi-humain, mi-humain, chimère, il fut chié par la mère, accouché par l'anus, haha. Parasite, démangeaison, gonflement, douleur, il se nourrit du corps, il sort quand la coquille est vidée. Le sortir au forceps, au pied de biche, à la scie sauteuse, il ne veut pas sortir ce parasite.
Le choix dans la date.
Donc, on n'a plus que quelques minutes, on va passer à l'agenda. Donc, quelques dates dans le mois qui arrive. Jeudi 11 décembre 2014 à 16h, permanence mensuelle contre les violences sexistes. C'est tous les deuxièmes jeudis du mois de 16h à 20h à la 20e chaise. C'est le centre social La 20e chaise, 3840 rue des Amandiers, métro Ménilmontant ou Père-Lachaise. Ensuite, le vendredi 12 décembre à 19h, il y a une rencontre avec Éric Fassin, autour de Rome et Riverain, une politique municipale de la race. Cette rencontre et la présentation du livre auront lieu au siège du MRAP, 43 boulevard Magenta, c'est métro Gare de l'Est ou Jacques Bonsergent. Ensuite, le samedi 13 décembre, c'est la journée internationale contre l'islamophobie. Dans ce cadre, il y a donc un forum contre l'islamophobie avec une journée entière de rencontres, débats, tables rondes de 9h30 à 20h à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Amphi D001, 2 rue de la Liberté, à Saint-Denis, c'est métro Saint-Université. Le programme détaillé est disponible sur Internet. Ensuite, pour celles qui ont des enfants, le samedi 20 décembre 2014 à 15h, débat « On n'est pas des super-héros », mon premier manuel antisexiste. Donc c'est une rencontre signature avec les auteurs de « On n'est pas des poupées » et « On n'est pas des super-héros » paru chez La Ville Brûle. Donc rencontre signature avec Delphine Beauvois et Claire Cantet. Et c'est à Quilombo, la boutique librairie au 23 rue Voltaire, métro rue des Boulets, Nation ou Alexandre Dumas. Voilà, pour des achats de Noël.
Alors c'est la première fois qu'on est en avance dans notre émission. Et du coup, comme il nous reste quelques petites minutes à glaner, on se disait que peut-être Céline, tu voulais rajouter des trucs.
Bah, je peux vous raconter une histoire d'accouchement si vous voulez.
Alors... Oui, raconte-nous une histoire d'accouchement.
J'ai une minute, c'est ça? Ok. Ouais, alors, donc, c'était. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait. On va l'appeler Monique. Je me souviens très bien de son visage, mais plus beaucoup de son prénom. Et je l'ai rencontrée. C'est son deuxième bébé. La première fois, elle avait une péridurale. Elle n'avait rien senti. Elle avait eu des forceps, une épisiotomie. Et là, pour le deuxième, elle voulait essayer d'accoucher sans péridurale. Et je la vois, donc elle voulait accoucher aussi, essayer d'accoucher dans l'eau. Enfin, on avait bien le temps de discuter de ça, parce que pour une fois, c'était une garde un peu calme. Et donc, là, c'est le début de son accouchement. Et puis, bah, y a une première phase d'accouchement où, en fait, les contractions peuvent s'arrêter. Et en fait, elle a une garde de nuit. Une semaine après, je la retrouve en salle d'accouchement. C'était la nuit aussi. Et là, le travail était vraiment parti. La dilatation du col se faisait. Voilà, le col, en fait, ça permet de fermer l'utérus et d'empêcher le bébé de passer dans le bassin. Donc là, elle était à 3-4 cm. Le bébé peut passer dans le bassin à 10 cm. Et à un moment, elle me dit... Elle marchait, elle gérait ses contractions, elle faisait de la respiration, c'est-à-dire tout simplement juste souffler le plus longtemps possible. Elle gérait bien, et à un moment, à 7 cm, enfin, à un moment, elle me dit, bon là, si je ne suis pas à dilatation complète, si bébé n'arrive pas, je veux la péridurale. Donc je l'examine, elle est à 7 cm, elle me dit, ok, je veux la péridurale. Donc moi, je dis très bien, c'est son choix, j'appelle l'anesthésie, je sors de la pièce, et là, je rentre de la pièce, et je la retrouve appuyée contre le mur, les fesses en l'air, en train de faire comme ça. Donc là, je connais très bien ce bruit. Et du coup, je me mets juste en dessous, juste sous ses fesses. Et donc, je retiens un peu la tête de son bébé. Je lui dis de pousser et elle pousse. Et en fait, du coup, son bébé naît comme ça. Elle l'attrape dans les bras. Elle fait « Ah, oh, mon bébé !» comme ça. Bon, et son mari à côté était juste contre le mur en train de faire « comme ça. Voilà. Et après, donc, elle s'est assise sur le lit. Elle s'est rallongée. Le placenta est sorti. À l'époque, c'était encore le moment où je me posais pas mal de questions sur... Je me disais, est-ce qu'il y a encore un risque ? Parce que le moment du placenta, c'est le moment où on a le plus peur qu'il y ait des hémorragies. Et donc là, je me disais, est-ce que le placenta est bien sorti ? Voilà, j'essayais de moi-même calmer mes nerfs. En fait, il est bien sorti. Et après, elle était super contente de cet accouchement. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà, d'avoir une histoire positive d'accouchement.
Mais en fait, elle t'a fait une feinte, c'est ça ? Enfin, genre, elle t'a dit, vas-y, va chercher l'anesthésiste et...
Non, elle m'a fait une feinte. Okay. Je pense pas qu'elle était en état de faire, je vais faire une petite feinte à la sage-femme. Non, je pense qu'en fait, juste avant que le bébé rentre dans le bassin, c'est un moment où les contractions sont ultra intenses. Ouais. Les femmes, elles se disent, certaines se disent, je vais jamais y arriver, je vais crever, je vais me péter en deux et tout. Mmh. Ça peut arriver, c'est un moment très paniquant. Mais par contre, c'est un truc très rapide. Du coup, là, en fait, elle a dû sentir que le bébé se rapprochait à fond du bassin, avoir peur, tu vois. Et en fait, quand je suis sortie et qu'elle allait avoir la péridurale, ça a dû vachement la rassurer aussi. Et après, elle s'est mise dans cette position-là, parce que c'est tout simplement la position qui l'a la plus soulagée, quoi, d'avoir les fesses en l'air. Ce que vous expliquais la dernière fois en préparation d'émission, c'est que quand les femmes ont les fesses en l'air plus hautes que la tête, en fait, le poids des organes est plutôt porté par la tête plutôt que par les muscles du bassin, quoi. Donc pour elle, c'est indispensable qu'elle se mette dans cette position-là. Voilà, donc elle m'avait pas feinté. Et... voilà.
Ok. Bon, bah merci pour la petite histoire.
Oui, on a choisi une histoire gay. Hein.
Ça va, elle est cool, elle est cool.
Eh ben, du coup, on va peut-être se quitter. Je fais juste un petit rappel que vous étiez bien sur Langue de Fronde. Que notre blog, c'est languedefronde.noblog.org. Et là, on avait envie de passer un son un peu en hommage et aussi en soutien aux étudiantes et étudiants disparus au Mexique, dans l'état de Guerrero. Dans la ville d'Ayotzinapa, il y a une chanson qui a été écrite par des étudiants de la UNAM, qui est l'université à Mexico District. Et du coup, c'est... ils ont disparu en cherchant à avoir plus de droits pour leur école. Et donc là, apparemment, il y aurait les restes d'un des camarades qui auraient été retrouvés la semaine dernière. Donc on parle plus que de 42 disparus, ce qui est énorme. Et ce qui est, en fait, si on regarde les chiffres, c'est rien à côté de toutes les personnes qui disparaissent en ce moment au Mexique. Donc je ne voulais pas plomber l'ambiance. La chanson est très chouette. Mais du coup, voilà, c'est un clin d'œil à nos amis du Mexique. Voilà, voilà. Et bien, à bientôt.
Salut.
À l'année prochaine.
Salut.
Nadie sabe qué pasaba en Guerrero. 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo. Desesperación de padres sin consuelo. Si te atreves a pensar, desaparecerás. Y si quieres hablar, te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Quizá no tenga cuerpo de acero, pero corre en mi sangre de guerrero. Las semillas renacerán del suelo, con más luz en el alma y no con miedo. Te atreves a pensar, desaparecerás. Y si quieres hablar, te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. De México a Japón me uniré. Ya
somos uno como 43. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie.